Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Tout d'abord, les grands titres de ce dimanche, la situation au Moyen-Orient sur le conflit israélo-palestinien, l'immeuble des médias Al Jazeera et Associated Press à Gaza détruit par l'armée israélienne. Les responsables sanitaires en Inde ne peuvent pas vacciner les gens en raison de pénurie de vaccins. L'Écossais Andy Murray ne jouera pas à Roland-Garros après avoir décidé de se concentrer sur la saison sur gazon. L'escalade des violences en Israël et à Gaza. Un nouveau barrage de roquettes a été tiré sur Israël par des militants du Hamas à Gaza. Il fait suite à une frappe aérienne israélienne sur un camp de réfugiés dans la bande de Gaza, où au moins des personnes ont été tuées, tandis qu'une roquette palestinienne a tué un homme en Israël. Le porte-parole de la police israélienne, Mickey Rosenfeld, a déclaré que la roquette qui a tué l'homme a touché Ramat Gan, une banlieue de Tel Aviv.
Israeli police responded to a wave of rockets that were fired towards the Tel Aviv area early this afternoon. As a result, there were two explosions that were heard in the Ramat Gan area. Police units arrived at the scene. One man was found dead. Another six others were taken to hospital in light condition. There was extensive damage found in the area, and heightened security and patrols is continuing, as we've seen rockets continuing to be fired into Israel throughout the late afternoon.
Une autre frappe aérienne israélienne a également visé et détruit un immeuble dans la ville de Gaza qui abritait les bureaux de l'Associated Press, Al Jazeera TV, d'autres bureaux et des appartements résidentiels. Trois missiles ont frappé le bâtiment de 12 étages près d'une heure après que l'armée israélienne ait ordonné aux gens d'évacuer le bâtiment. Le PDG de l'Associated Press, Gary Pruitt, est choqué que l'armée israélienne cible le bâtiment.
They long knew that AP's bureau was there, and they targeted it. Those brave journalists not only got out, but they were able to salvage much of our equipment because it's important that we continue to tell this story. You see, that building provided the best vantage point for the world to see the events in Gaza. We will work hard to continue to tell the world the important events of Gaza, and we will keep our journalists safe.
Le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant Jonathan Conricus, a donné ce briefing virtuel après la destruction du bâtiment abritant ses bureaux de l'Associated Press et d'autres médias. Il a déclaré que l'armée israélienne avait ciblé le bâtiment car il contenait des agences de renseignement du Hamas.
Premièrement, ça n'est pas une tour pour les médias et ça n'est pas un centre de presse. C'est un immeuble utilisé par le Hamas. Deuxièmement, il abritait des bureaux de leur renseignement utilisés à des fins militaires contre nous. Et troisièmement, des activités de recherche et développement étaient menées dans ce bâtiment pour mettre au point des armes contre Israël. Dans et sur ce bâtiment, des équipements technologiques très développés étaient déployés. Le Hamas a utilisé ces équipements pour entraver ou limiter les activités de l'armée dans le territoire israélien. Ce sont ces trois raisons qui ont conduit l'armée à bombarder cette tour. Et oui, nous sommes attentifs à la sécurité des journalistes et à leur liberté d'exercer, mais le Hamas fait en sorte délibérément d'implanter son infrastructure militaire dans des infrastructures civiles.
Et à travers le monde, des milliers de personnes au Liban, en Irak, en Turquie et en Jordanie ont rejoint les manifestations en réponse à cette violence au Moyen-Orient. À Paris et en Grèce, la police anti-émeute a utilisé des canons et des gaz lacrymogènes contre des partisans pro-palestiniens. Des centaines de manifestants dans la ville américaine de Boston sont également descendus dans les rues et ont bloqué la circulation pour appeler à la fin des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Et à Sydney et à Melbourne, des marches se sont déroulées en solidarité avec des personnes vivant dans les territoires palestiniens. En France, quelques 22 000 personnes ont manifesté à travers le pays, dont quelques 3 000 personnes à Paris. Reportage Oriane Verdier pour RFI.
Avant même le début annoncé de la manifestation, les forces de l'ordre interviennent au jet d'eau et au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Parmi eux, le petit Marwan est venu avec son père soutenir le peuple palestinien.
On tue des personnes ! À quoi ça sert ? Ça va servir à quoi ? À rien ! Parce que ça va servir à quoi ?
Nous ne pouvons pas parler plus longtemps, il faut courir pour échapper à la charge des forces de l'ordre. À côté de nous, Julie, elle porte des lunettes de piscine pour se protéger des gaz.
C'est une répression par la force d'un mouvement et d'un droit qui est fondamental, qui est droit à la manifestation. En plus, du soutien qui est évident à Palestine, il y a un empêchement de la manifestation en soutien à Palestine. Et il y a les flics qui arrivent derrière.
Il faut donc à nouveau avancer jusqu'à tomber nez à nez avec un nouveau barrage de policiers. Nous voilà nassés. Les manifestants s'asseyent donc par terre pour tenter de faire retomber la pression tout en continuant à scander Israël assassin.
On vient apporter notre soutien à la résistance palestinienne. On n'est pas du tout sur un contexte de guerre, on est sur un contexte de colonisation, de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, il faut le dire, je pense, il y a eu plus de 300 morts à Gaza et tout le monde s'en fout. Et Macron met les Palestiniens et les Israéliens sur le même piédestal en disant que c'est une guerre. Ce n'est pas une guerre, vive la résistance du peuple palestinien.
Les manifestants continueront encore plusieurs heures à jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre qui les repoussent vers l'extérieur de la ville.
Les personnes en Inde qui souhaitent se faire vacciner sont confrontées à des pénuries de vaccins et à des prix exorbitants. Deux des plus grands fabricants de vaccins en Inde, Bharat Biotech et Serum Institute of India, ont du mal à répondre à la demande croissante de nombreux fournisseurs en rupture de stock. Cet habitant de Delhi, Ashok Kumar Verma, affirme que les prix de certains vaccins ont plus que doublé.
The charges for one dose, which is 900 rupees, that seems to be on a higher side, because just few days back, I think maybe in the month of April, same BL Kapoor hospital was charging 250 rupees, right, for one dose. So it doesn't look justified.
Dans la ville de Bengaluru, les responsables de la santé sont obligés de renvoyer les gens car ils sont à court de vaccins. Un centre de vaccination de la ville, anciennement connu sous le nom de Bangalore, a complètement suspendu la vaccination des personnes âgées de 18 à 44 ans. Les bus sont également utilisés comme centre pour les patients atteints de Covid-19 pour obtenir de l'oxygène. Balaji est bénévole à la Fondation Inde et il dit que jusqu'à 8 patients à la fois peuvent recevoir de l'oxygène à tout moment.
Each patient probably might require, it depends on their saturation levels, might require 1 hour, 2 hours. This is a stopgap arrangement. In other words, we can say it as first aid. So that in the hospital searching, some breather will be even here.
Les Australiens rapatriés sont arrivés sur le premier vol depuis l'Inde, depuis la levée d'une interdiction de voyager, et ils entament leur deuxième jour de quarantaine ce dimanche. Environ 80 personnes ont pris le vol de 8h30 de Delhi, qui a atterri hier matin en Australie. Les rapatriés ont été transférés à l'installation de quarantaine de Howard Springs, où ils passeront les 2 prochaines semaines. Le ministre des Finances, Simon Birmingham, estime que le programme de financement de 17,7 milliards de dollars du gouvernement pour les soins aux personnes âgées est adéquat, même si les défenseurs des soins aux personnes âgées, les économistes et l'opposition pensent le contraire. Ils disent que le financement, qui fait partie des engagements du budget fédéral de la semaine dernière, aurait dû être plus de 10 milliards de dollars par an au lieu de 17,7 milliards répartis sur 4 ans. Simon Birmingham déclare que ce sont de bonnes réformes et garantit des temps de soins minimaux, des places de lit, la transparence, l'audit et la sécurité. L'Angleterre va de l'avant avec un assouplissement des restrictions de verrouillage, tandis que les autorités tentent de contenir la propagation d'une nouvelle variante indienne du Covid-19 qui a presque triplé au cours de la semaine dernière. À partir de demain, lundi, les restaurants, les pubs, les musées et les cinémas pourront rouvrir en prévision d'un plan visant à lever complètement les restrictions à partir du mois prochain. En France, le cap des 20 millions d'injections anti-Covid a été franchi ce week-end. On écoute le Premier ministre Jean Castex.
Je suis raisonnablement optimiste. Nous devrions ce soir atteindre l'objectif collectif que nous nous étions fixés, à savoir 20 millions de primo-vaccinés, comme on dit, au 15 mai. Cela conforte les perspectives de sortie de crise, qui sont également confortées par l'évolution des données de l'épidémie. Vous le savez, celle-ci régresse. Nous avons maintenant les moyens de passer à l'étape suivante. C'est dans quelques jours la phase 1 de la rouverture de beaucoup d'établissements recevant du public. L'objectif suivant à la mi-juin, c'est 30 millions de primo-vaccinés. C'est à notre portée, avec tout ce que je vois dans le pays, État, élus, professionnels de santé, pompiers, Croix-Rouge, associatifs, c'est finalement toute la France qui est au service de la vaccination.
En Afrique, l'Union africaine voudrait accompagner la transition au Tchad. Explication de Claire Fage pour RFI.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine accompagnera la transition à N'Djamena. C'est ce que le CPS a confié ce samedi à RFI. Cela veut dire que le Tchad n'est pas suspendu des instances de l'UA 3 semaines après l'instauration d'un pouvoir militaire à N'Djamena et malgré la répression des manifestants tchadiens qui réclamaient un pouvoir civil et inclusif. Cette indulgence de l'UA envers les nouvelles autorités tchadiennes tranche avec les sanctions qu'avait prises l'organisation régionale contre le Mali il y a moins d'un an après l'arrivée au pouvoir d'une junte à Bamako. Mais le Tchad a une position centrale dans le dispositif de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Parmi les 15 pays africains membres du CPS, la plupart des États de la CDAO ne voulaient pas de sanctions, pas plus que le Cameroun. Ils ont visiblement convaincu l'Algérie, le Ghana et les pays d'Afrique australe d'aller dans leur sens. Le CPS imposera-t-il en revanche des conditions particulières au nouveau régime militaire de Mahamat Idriss Déby, tels qu'un calendrier pour l'organisation d'élections ou la présence d'un président civil? On le saura peut-être dans le communiqué officiel attendu ce dimanche.
Direction le Chili maintenant, avec la tenue des élections où les Chiliens ont commencé à élire hier samedi leur assemblée constituante. Reportage Justine Fontaine, RFI.
Droits sociaux, lutte contre les inégalités, voici ce que propose dans un spot en ligne cette candidate à l'Assemblée constituante. À cause de la pandémie, l'élection a dû être reportée d'un mois, mais elle reste très attendue, explique la politologue Carmen Le Foulon.
C'est symboliquement une élection extrêmement importante, car il s'agit d'une certaine manière de construire un nouveau pacte social.
Car 30 ans après le retour à la démocratie, d'immenses manifestations ont eu lieu fin 2019 au Chili, pour dénoncer les inégalités qui persistent dans le pays. Et en octobre dernier, 78% des électeurs ont choisi d'abandonner la loi fondamentale héritée de la dictature. Catalina, 26 ans, espère que la nouvelle constitution reviendra sur les réformes néolibérales imposées sous Pinochet.
Par exemple, concernant la santé, les retraites, l'éducation, et puis que l'eau ne soit plus privatisée comme maintenant, pour que mon fils grandisse dans une société différente, qui ne soit pas aussi inégalitaire qu'aujourd'hui.
Comme beaucoup de Chiliens déçus par les partis politiques, elle votera ce week-end pour un ou une candidate indépendante.
Une foule de manifestants s'est rassemblée devant le Capitole de l'État de Californie pour manifester contre les crimes haineux contre les Américains d'origine asiatique, les insulaires du Pacifique et d'autres communautés. Ce manifestant a rejoint le rassemblement Unity Against Hate à Sacramento, visant à mettre en évidence la violence physique et verbale que certains membres de ces communautés ethniques avaient subies.
This is not going to be an issue where it's after COVID is over, there was just an Asian hate and we're done. We're going on to the next. You know, we're not a virus. We're not the one that started this pandemic.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 27 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 14. Canberra, 12. Sydney, 18. Brisbane, 22. Cairns, 28. Darwin, 33. Et à Alice Springs, un maximal de 20 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, la situation au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, l'immeuble des médias Al Jazeera et Associated Press à Gaza, détruit par l'armée israélienne. Les responsables sanitaires en Inde ne peuvent pas vacciner les gens en raison de pénurie de vaccins. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.